Bonjour et bienvenue dans le podcast Journal d'une curieuse créative, épisode 2. Je suis Chloé, éleveuse de chèvres angora, de brebis limousine et fondatrice de l'atelier Fibrelaine. Je suis avide d'apprendre, de créer et de partager mes découvertes avec vous. Ce podcast est là pour vous inspirer à vivre la vie que vous voulez vraiment. Je vous emmène chaque mois dans ma vie paysanne et créative pour revenir à l'essentiel et vivre une vie authentique. À la ferme. Alors, le mois dernier, je vous parlais des mises bas, donc ça continuait un petit peu. Là, ça touche vraiment à la fin. Alors, pour le décompte des naissances, nous avons environ 70 agneaux et 15 chevreaux. Donc, il y a du monde à s'occuper. Là, les bâtiments sont bien remplis. Et dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On est assez équilibré en mâles et femelles. J'avais plus de femelles chez les chèvres et puis là, les dernières naissances, ça a été des mâles. Au niveau des chèvres et des moutons, c'est assez équilibré mâle-femelle. Pour les chèvres, je garde tout le monde parce que j'avais un petit troupeau et je veux augmenter un petit peu. Et pour les agneaux, je garde 20 agnelles de renouvellement parce que j'ai des petites mamies qui commencent à peiner donc. Et puis des brebis ça fait 2-3 ans qu'ils n'ont pas pris. Donc je garde 20 agnelles de renouvellement et le reste part en vente directe en colis de viande d'agneau. Donc voilà, les petits chevreaux, les petits agneaux, ça va. Là, on commence à les sortir dehors, donc ça fait du bien à tout le monde. Les mamans sont contentes de sortir. Les petits aussi, ils courent dans l'herbe. J'ai vu ma première hirondelle le 5 avril. Et elles sont rentrées 2 jours après dans la chèvrerie. Alors ça, je suis contente parce que tous les ans, je me dis, est-ce qu'elles vont revenir? Et si elles reviennent, est-ce qu'elles vont ou refaire un nid ou réoccuper un nid? Donc dans la chèvrerie, on n'en a pas beaucoup par rapport à, je dirais, la capacité. On a 2-3 nids qui sont occupés tous les ans. Et donc là, les hirondelles sont bien revenues. J'ai entendu le coucou le 7 avril. Il y a toujours pas mal de boulot au maraîchage. On a semé, dans l'épisode précédent, je vous parlais des graines de fèves. Et je vous mettais un lien, une photo, parce que je l'ai trouvée très appétissante. Et là, on a pas refait des fèves, parce qu'on en avait fait assez, mais on a semé des céleris. C'est des graines minuscules, minuscules. Et ça m'a fait rire parce que j'ai pensé aux graines de fèves et je me suis dit, c'est drôle quoi. Donc on a fait ça. Et les graines, c'est vraiment une fascination pour moi. Me dire que dans cette petite graine, même les grosses graines finalement, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que la plante devienne ce qu'elle doit devenir. Il y a toute l'information pour que la graine de fève devienne une fève. Et... enfin voilà, je trouve ça assez magique que dans un gland, par exemple, il y ait tout pour faire un immense chêne centenaire. C'est presque magique. Et on a aussi planté des framboisiers. Alors, la partie végétale, culture, c'est plutôt Hugo qui aime et qui fait ça. Moi, je suis plutôt sur la partie élevage. J'ai décidé de faire une planche de 60 mètres de framboisier pour ma consommation personnelle. Non, je vais en manger beaucoup, je vais faire des gelées et bon, je pense qu'il en restera pour vendre. Donc on a fait ça, donc je me suis renseignée un petit peu sur le framboisier et voilà ce que j'ai trouvé. Donc le framboisier appartient au genre des ronces, Rubus, et son nom latin c'est Rubus idaeus. Donc c'est un arbuste buissonnant et drageonnant qui forme des rameaux pourvus d'épines au feuillage caduc. Donc il y a deux types de framboisiers. Il y a les framboisiers non remontants qui donnent leurs fruits plutôt en juin-juillet. Et il y a les remontants qui, eux, fructifient plus en juillet et de nouveau en septembre. Donc nous, on a planté deux espèces. On a planté des remontants et des non-remontants. J'ai oublié le nom de la variété. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Tulamine et l'autre, je ne sais pas. C'est pas grave. Donc les framboisiers sont assez rustiques et ils peuvent produire des fruits pendant 10 ou 15 ans. Et ils ont des petites fleurs blanches et donc c'est ça qui va donner les framboises qu'on mange. Et les feuilles s'utilisent également en tisane. Donc les framboises sont rouges et il y a des variétés qui ont été créées qui donnent des framboises oranges, noires ou blanches. La production par pied, c'est environ 3 à 4 kilos de framboises. C'est un fruit riche en éléments minéraux et en fer. Et apparemment, ça permet une bonne régulation du transit intestinal. Et les feuilles, donc comme je disais en tisane, sont astringentes, diurétiques, toniques et dépuratives. Donc c'est des framboisiers qu'on a été chercher chez un maraîcher bio à Blon. On n'en trouvait pas sur internet, donc on a été justement prendre les drageons de ces framboisiers qui s'étalent, et on a replanté ça. Il faut les espacer de 40 à 50 cm entre les pieds et entre les rangs, mais bon, nous on va faire qu'un rang, il faut à peu près 1,20 m. Donc c'est plutôt en sol drainant peu acide et en été, il vaut mieux que ce soit pas trop sec et pas trop humide en hiver. Donc on va voir ce que ça va donner. Je voulais les pailler et puis cette année je vais pas transformer la laine de mes moutons et j'ai pas envie de la vendre parce que je sais pas ce qu'elle devient et j'ai envie de l'utiliser même si je fais pas un fil. Donc au lieu de pailler mes framboisiers, je vais les matelasser avec de la laine. Et on va voir, donc pour justement garder un sol un peu frais, l'humidité. Donc au niveau de l'entretien, il y a une taille qui doit être faite chaque année. Donc pour les non-remontants, il faut couper les branches mortes et les rejets. Et on conserve une dizaine de branches vigoureuses. Et pour les remontants, il faut seulement tailler les branches mortes. Donc voilà pour mes petits framboisiers. J'espère que ça va donner. Alors cette année, donc comme on les a replantés, on n'en aura pas. J'espère que l'année prochaine, il y en aura un petit peu. Et que d'année en année, il y en aura de plus en plus. Donc je suis assez contente d'avoir cette responsabilité parce que c'est vrai que j'ai pas trop la main verte. Pourtant j'aime bien, mais j'ai essayé plusieurs fois d'avoir des fleurs en jardinière ou même à l'extérieur. Je plante des fleurs, mais je les désherbe jamais, je les arrose jamais. Voilà. Donc mes petits framboisiers sont sous ma responsabilité. Je vais essayer d'en prendre soin. L'atelier fibre-laine. Alors ce mois-ci, j'ai pas mal travaillé sur un nouveau, disons, domaine pour moi. J'ai repris le crochet. Alors j'en avais fait un petit peu quand j'étais encore dans le Jura. J'avais fait un modèle de châle que j'avais répété, je crois, sur 4 ou 5 fois. Et ça avait été ma seule expérience en crochet. Et puis là, je me suis remise au crochet parce que je voulais faire une peluche pour ma petite fille. C'est des modèles de Lali Lala. Vous connaissez peut-être, je vous mettrai le lien vers cette créatrice. Elle fait des animaux en crochet. Et donc, elle a toute une série, toute une collection de peluches un petit peu animalières. Donc, ça s'appelle le Doll Project. Et il y a 10 ou 15 animaux. Donc là, celui que je suis en train de faire, c'est Fox Phoebe. Donc c'est le renard Phoebe. Et il est très, je trouve, très joli, très, très simple. Et ça a été une sacrée aventure. Il n'est pas fini, il me reste un bras, une queue et l'assemblage à faire. Et en fait, je l'ai fait avec les restes de laine de la première paire de chaussettes que j'ai tricotées sur ma machine circulaire. Donc j'ai commencé à crocheter cette peluche et j'en étais arrivée à peu près à 3/4 du corps quand j'ai bien vu que ma pelote n'irait pas jusqu'au bout. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je veux vraiment finir ce renard et je l'aime beaucoup dans cette couleur. Donc c'était une laine à chaussettes en mérinos hazelnut coloris Equinox. Et donc je me suis dit, je vais chercher sur Ravelry si quelqu'un n'a pas un écheveau à vendre. Donc j'ai cherché un peu et il n'y en avait pas beaucoup à vendre. Je crois qu'il y en avait 3. Et c'était aux États-Unis. Donc je voulais pas trop acheter aux États-Unis. Je trouvais que ça faisait cher en frais de port. Donc j'ai cherché un petit peu sur des sites français et c'est un coloris qui n'est plus réalisé. Donc je me suis dit, bon ben, est-ce que je lui fais une sorte de haut dans une autre couleur un petit peu marron, peut essayer ça. Et puis vraiment cette laine, je l'aimais beaucoup et je trouvais que sur le petit renard, ça allait très très bien. Donc j'ai décidé de détricoter une chaussette, de finir mon renard et s'il me restait suffisamment de laine, d'essayer de retricoter la chaussette. Donc j'en suis là de mes aventures avec le petit renard en crochet. Donc comme je vous dis, il me reste un bras et la queue. Et bon, je pense que j'aurai pas assez de laine pour refaire la chaussette. Donc je vais détricoter la deuxième chaussette et puis je vais la garder pour une autre peluche. Bref, mes aventures au crochet. Et donc ce mois-ci, j'ai aussi crocheté un châle qui s'appelle le Dragon Belly Shawl de Mijo Crochet. Donc c'est une créatrice suédoise, je crois. Et c'est un modèle gratuit qui est disponible sur internet en anglais et en français. Il a été traduit par Ma Petite Bergère en français. Vous retrouverez toutes ces infos dans les notes de cet épisode. Et donc c'est un châle triangulaire tricoté en 4, je crois. Oui, c'est ça, tricoté en 4. Et ça alterne deux rangs et ça fait un très très joli point structuré qui fait des lignes de mailles très jolies. Donc j'ai mis une photo il y a quelques temps sur Instagram et je vais essayer d'écrire un article de blog sur ce châle. Donc le premier châle Dragon Belly que j'ai crocheté, je l'ai fait en laine de chez Candy Wool. Donc c'était une laine 100% mérinos. Je l'ai crocheté en 4 comme indiqué sur le patron. Et comme ce châle m'avait vraiment beaucoup plu, j'ai décidé de refaire le même châle mais en mohair. Mohair et soie, la laine cocon, coloris beige rosé. Et j'ai pris un crochet du 5 cette fois parce que je le voulais plus aéré et plus fluide. Et il n'est pas fini, j'en suis je dirais au début de la troisième pelote. Et ça rend bien, j'ai hâte de le finir et de le bloquer pour voir ce que ça fait. Je suis pas sûre encore si sur le modèle en fait il y a des glands à faire à la fin. Et ça fait très joli. Sur le premier châle en mérinos que j'ai tricoté, ça fait très joli. Je sais pas si je vais les faire pour celui en mohair, je vais voir. Donc voilà un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé et ça m'a fait redécouvrir le crochet. J'étais très contente parce que j'en fais rarement et c'est bizarre, je crois que le printemps m'inspire le crochet. Alors je sais pas si c'est parce que c'est... on voit beaucoup de modèles très colorés au crochet, notamment des créatrices... pareil, finlandaise. Et je pense que c'est lié au fait que les jours rallongent, il y a plus de lumière, plus de couleurs. Et en tout cas, le crochet m'attire à cette période. Alors je trouve ça très agréable de crocheter parce que les modèles que je fais actuellement, on a une maille, une boucle sur le crochet, quoi. Donc c'est vraiment... comparé au tricot où on a beaucoup de mailles, la sensation n'est pas la même. Et puis je dirais que le geste est différent aussi parce que Moi, en tricot, en fait, j'essaie d'être la plus immobile possible pour éviter de fatiguer ma main, mon poignet, mes épaules. Donc, j'essaie vraiment de faire des tout petits mouvements pour être assez immobile. Et en crochet, le geste est différent, bien sûr. Et je le trouve beaucoup plus dynamique et beaucoup plus entraînant parce que vous devez faire un jeté, piquer la maille, attraper le fil. Tout dépend des points, mais le geste est très très dynamique. Et j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est parce que je tricote rarement en 5 aux aiguilles et là j'ai fait un projet en 5, mais j'ai l'impression que le crochet ça monte assez vite. Assez vite. Donc j'utilise des crochets ergonomiques. Donc je sais pas, je pense que ça joue sur la fatigue de la main. Voilà. Donc voilà ma redécouverte du crochet. Et je trouve ça très agréable parce que j'ai découvert, en cherchant justement des ouvrages au crochet, j'ai découvert plein d'idées et de créatrices pour ou des couvertures ou des petits accessoires de la maison comme des sous-tasses, ce genre de choses. Et je trouve ça très sympa, je trouve que ça met un peu de couleur et ça embellit un intérieur assez facilement. Et puis, y avoir des projets très courts, voilà un sous-vert, je pense qu'en une après-midi, quelques heures, c'est réalisé quoi. Et donc, je vais me lancer dans mon premier cal, donc c'est crochet along, je crois, ou craft along, je sais pas, qui est organisé par la créatrice du châle Dragon Belly, Mijo Crochet. Elle a créé une couverture en fait et elle fait un cal pour cette couverture. Donc j'ai déjà ma laine. Donc ça c'est chouette. J'attends que le patron sorte. Je crois que c'est à fin avril. Donc ce sera mon premier projet, disons, en commun. Enfin en commun avec crocheter en même temps que d'autres personnes. Et ça c'est... J'espère que ça va me motiver parce que je voulais vraiment faire une couverture pour ma petite. Et puis, bon, mais c'est pas vraiment la priorité, mais je me dis que c'est l'occasion de se lancer là-dedans et j'espère que ça va me motiver et que ça va rythmer un peu mon avancée sur cette couverture. Voilà pour mes petites activités à l'atelier fibre laine du crochet. Lecture. Ce mois-ci, j'ai lu un livre super bien qui s'appelle Le pays du nuage blanc de Sarah Lark. Je vais vous faire un petit résumé et vous donner après mon avis sur ce livre. Au milieu du 19e siècle, en Angleterre victorienne, deux jeunes femmes s'embarquent à bord d'un bateau en direction de la Nouvelle-Zélande. Gwyn, qui doit épouser Lucas Worden, le fils d'un riche éleveur de moutons, et Hélène, qui doit épouser Howard O'Cliffe, un fermier modeste, rival des Warden. Sur le bateau, les deux femmes vont se lier d'amitié et durant des années, leur destin et ceux de leurs descendants vont se croiser. Donc voilà le résumé de ce livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre assez long, je ne sais pas exactement combien il y a de pages. Et c'est une grande saga familiale avec tous les ingrédients d'une bonne histoire. Il y a de l'amour, de l'amitié, des trahisons, de la rivalité. Et il y a aussi des magnifiques descriptions des paysages de la Nouvelle-Zélande. Il y a aussi des descriptions et des chapitres sur la vie paysanne et l'élevage ovin, en particulier de l'époque, qui m'a fait d'autant plus dévorer ce livre. La lecture a été assez fluide et agréable, avec des chapitres assez courts qui passent de la vie d'une héroïne à une autre. Et j'ai trouvé ça assez dynamique. Donc ce qui m'a attirée, je dois dire, sur ce livre, c'est la couverture en fait. C'est une dame en robe avec une ombrelle, je crois, sur une plage et on voit des falaises un petit peu au lointain, quoi. Ça m'a attirée parce que la Nouvelle-Zélande, je suis pas sûre d'avoir la possibilité d'y aller un jour. Et donc de lire un livre sur ce pays, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça fait voyager de chez soi. Donc l'écriture est assez simple et directe et les péripéties incessantes sont agréables pour venir à bout quand même de ce pavé. Alors ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est les héroïnes. Donc on suit deux femmes très différentes. L'une est riche et courageuse, en recherche d'aventure. Elle aime la nature et elle est passionnée par ses chiens de troupeau et ses animaux. Et l'autre est plus traditionnelle, conventionnelle, sérieuse et pas vraiment faite pour les travaux de la ferme malgré le destin qui l'attend là-bas. Je trouve que ce roman est marqué un peu par une empreinte féministe et notamment la Nouvelle-Zélande. Je savais pas, mais je me suis renseignée, est le premier pays à avoir accepté le vote des femmes. Donc justement aussi ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est la Nouvelle-Zélande et la description qu'elle en fait dans ce livre. Donc c'est à l'époque de la colonisation et elle parle aussi de l'histoire de l'élevage des moutons et de l'importance de la laine. Donc la lecture a été assez addictive pour moi et une fois que je l'ai commencé, ça a été assez difficile de s'arrêter. J'aime bien les sagas de manière générale qui suivent plusieurs personnes, plusieurs générations, et d'autant plus celle-là dans des paysages magnifiques au milieu de moutons. Et puis elle aborde d'autres sujets qui sont assez intéressants et qui dépeignent aussi une époque que je connaissais pas mais qui m'intéresse. Elle parle notamment de la chasse à la baleine, un petit peu de la ruée vers l'or. Et j'aime bien ce genre de détails historiques qui nous apprennent des choses, même si on est dans un roman de fiction. Donc j'ai adoré découvrir ce contexte historique, la difficulté de la colonisation et suivre la vie de ces deux héroïnes sur une longue période, c'était vraiment prenant. Donc cette œuvre aborde des thèmes très intéressants. Donc comme je disais, avec je dirais, une voix un peu féministe. Et elle aborde des thèmes comme la place justement de la femme dans cette société du 19e siècle, dans un pays en pleine colonisation, l'éducation et son rôle primordial, et l'élevage ovin qui fait partie intégrante de l'histoire de la Nouvelle-Zélande et encore aujourd'hui, et notamment l'élevage de moutons qui sont spécialisés et élevés dans un but vraiment lainier. Donc voilà ma petite lecture du mois d'avril. J'espère que je vous ai donné envie parce qu'il est vraiment chouette. Donc je vous mettrai les notes dans l'article pour cet épisode. C'est Le pays du nuage blanc par Sarah Lark. Curiosité. Dans ce segment, je voulais vous raconter un petit peu l'histoire du tricot. Donc lorsque j'ai commencé mes recherches sur l'histoire du tricot, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur ce sujet et j'ai dû regarder dans plusieurs articles, plusieurs références que je vous mettrai dans les notes pour cet épisode. Et en fait, l'une des raisons à ça, c'est que les éléments retrouvés par les recherches en archéologie sont peu nombreuses par rapport notamment au tissage qui lui est plus ancien. Mais en fouillant un peu et en élargissant au domaine de l'histoire du textile, j'ai fait un petit résumé de ce que j'ai trouvé sur l'histoire et la naissance du tricot. Donc dans un premier temps, je voulais vous donner une définition du tricot. Donc il est admis de manière générale que c'est un processus qui utilise deux ou plus aiguilles et un fil pour former une boucle connectée à d'autres boucles dans le but de créer un vêtement ou un accessoire. Donc l'origine du tricot est vraiment liée aux besoins primaires de l'humain en réalité, le besoin de se vêtir pour lutter un petit contre le froid, le vent, les éléments. Et aujourd'hui, c'est plus un. Je le mets entre guillemets parce que ce mot me convient pas, mais c'est plus un loisir, disons, du moins le tricot à la main, que vraiment une activité. Même si l'industrie lainière tient une grande place dans la mode encore aujourd'hui. Les débuts du tricot. Le tricot est une technique qui produit un tissu avec un fil et des aiguilles. Contrairement au tissage, le tricot ne demande aucun équipement imposant. Une paire d'aiguilles est suffisante, ce qui en fait une activité très nomade. Le plus ancien artefact découvert sont des chaussettes qui viennent d'Égypte, datant du XIe siècle. Un tricot avec un fil très fin et des motifs de jacquard très complexes, utilisant la technique des rangs raccourcis qui requiert l'emploi de mailles envers. Et en fait, ça démontre que ce premier objet trouvé a été réalisé avec des techniques assez avancées et complexes. Donc, il est admis que l'histoire du tricot est plus ancienne que le XIe siècle. Mais il n'y a pas, disons, de traces matérielles retrouvées. Il a été découvert une autre technique relativement similaire. Alors, je vais essayer de le prononcer, le nalé binding. Je vous mettrai le nom et la définition dans les notes. Donc cette technique, ça se rapproche du tricot, mais le tissu créé est en fait réalisé à partir de plusieurs boucles avec une seule aiguille et un fil. Donc ça se rapproche un petit peu de la couture. Donc la plupart des origines du tricot proviennent du Moyen-Orient et se répandent en Europe via la Méditerranée par les routes commerciales. Et après, ça s'étend plus tard aux Amériques par la colonisation. Donc le tricot en Europe. Les premiers ouvrages tricotés connus en Europe sont réalisés par des tricoteurs arabes employés par la famille royale espagnole. Leur savoir-faire a été retrouvé dans la tombe du prince Fernando de la Cerda, qui est mort en 1275. C'était une housse pour coussin mortuaire tricotée en soie avec 8 mailles par centimètre, un travail très fin. Et il a été retrouvé de nombreux autres ouvrages datant du milieu du XIIIe en Espagne. Et puis après, on voit que ça s'est un petit peu étalé parce qu'il a été trouvé des ouvrages en Estonie, notamment une partie du poignet d'une mitaine. Donc on voit que le tricot est né au Moyen-Orient et il se développe, il se répand un petit peu dans toute l'Europe. Au XIVe siècle, il y a des fragments archéologiques qui ont été retrouvés un peu partout en Europe, donc à Londres, à Oslo, Amsterdam. Cependant, tous ces ouvrages étaient en jersey endroit. Il n'y avait donc pas de maille envers. Elles avaient dû se perdre en route. Et la maille envers, n'apparaît qu'au XVIe siècle sur des bas d'Éléonore de Toledo, et c'est aussi là qu'on voit les premières traces du tricot dentelle. Donc voilà pour la petite histoire du tricot, ses origines. Donc je trouve ça très intéressant, et ce qui m'a frappé, c'est que c'était vraiment utilisé pour des chaussons, des chaussettes et des bas en fait. On trouve que par la suite, des objets décoratifs comme des coussins mortuaires, des gants. Et vraiment, au début, voilà, c'était utilisé pour des bas. J'essaierai de continuer cette petite histoire du tricot dans le prochain épisode. Pour ne pas faire un épisode trop long pour celui-ci. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'était le mois d'avril 2018 à la ferme. Je reviens dans un mois avec, j'espère, mes petits projets en crochet terminés. Peut-être des nouveaux projets en tricot commencés, des nouvelles lectures. Et j'espère que vous avez passé un agréable mois d'avril. Je vous souhaite un agréable mois de mai. Et on se retrouve dans un mois. Et surtout, restez curieux !